Le mercredi 5 octobre, un appel national est lancé pour une journée de défense des jeunes exilés en danger. Il s'agit de faire prendre conscience de la situation des mineurs non accompagnés sur le territoire qui, s'ils ne sont pas reconnus comme tels, se voient refuser toute assistance par les services de l'État. À Saint-Étienne, le rendez-vous est donné au kiosque de la place Jean Jaurès à 14h45. Cet appel à la mobilisation est notamment organisé par la Maison Solidaire de Saint-Étienne. Rencontre avec Valentin de l'association ATPAC Maison Solidaire.
Alors, sous ce titre se cache une coordination nationale qui a été mise en place en juin 2022 à l'initiative notamment de collectifs de Lyon qui intervenaient auprès de mineurs en recours ou de jeunes majeurs qui étaient dans une situation très délicate sur des squats qui devaient être fermés et dont un qui a brûlé même à Lyon où il y a eu un épisode assez dramatique, hein, même s'il n'y a pas eu de blessés graves ou de morts, il y a quand même eu une trentaine de jeunes qui se sont retrouvés dehors, qui ont sauté par les fenêtres, etc. Donc cet événement a créé une espèce de rassemblement des collectifs et associations en France qui ont créé cette coordination qui a pour objectif la défense des jeunes exilés en danger. On vient de passer un été assez compliqué sur plusieurs villes de France, notamment Limoges, Toulouse, Montpellier, Paris, Marseille, avec des jeunes qui sont restés dans des camps de tente pendant tout l'été. Et la coordination a du coup voulu cette journée nationale pour alerter une bonne fois pour toutes, si on peut dire, sur la situation des mineurs en France, puisque depuis plusieurs années, on a peu d'impact sur les médias mainstream qui ignorent un petit peu le problème et du coup les politiques ne prennent pas le problème non plus à bras le corps et la situation n'avance pas.
De nombreux rassemblements ont lieu en France, dont celui de Saint-Étienne, rendez-vous à 14h45 au kiosque de Jean Jaurès. Combien y a-t-il de rassemblements en France et puis à Saint-Étienne, que va-t-il se passer ?
Pour l'instant, il y a une quinzaine de rassemblements identifiés. Après, tous les collectifs n'ont pas fait remonter les informations puisqu'ils sont occupés par autre chose que les mailing lists et les groupes de discussion sur WhatsApp. Donc, il y en aura peut-être un peu plus. Il y aura en tout cas des événements aussi symboliques. Même si les gens ne manifestent pas, il y aura des communiqués de presse de collectifs et associations. Sur Saint-Étienne, on a prévu une déambulation entre donc l'hôtel du département à côté de Jean Jaurès et le tribunal pour enfants avec une issue à la Bourse du Travail où les jeunes devraient participer à une réunion du collectif pour que personne ne dorme à la rue. Collectif qui regroupe une trentaine d'associations ligériennes qui font de l'hébergement d'urgence, si on peut dire, ou même parfois pérenne, pour des familles en difficulté. On devrait s'arrêter 30 minutes au tribunal pour des prises de parole, puisque les griefs que nous avons à l'heure actuelle sont majoritairement orientés vers le département et le tribunal qui prennent des décisions pour nous hors sol et qui ne protègent pas les jeunes.
Alors ces décisions-là, de la part du tribunal et donc du département, quelles sont-elles concrètement ? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Étienne pour ces mineurs non accompagnés ?
Alors, pour ce qui est du département, hein, ils ont en charge la protection de l'enfance, hein, donc l'accueil des mineurs, y compris étrangers qui se présentent sur le territoire et sans famille. Donc, quand ils arrivent sur site, hein, au département, on les met à l'abri pendant quelques jours dans un hôtel, et puis ensuite, on leur fait passer une évaluation de la minorité et de l'isolement qui consiste en 3 heures de temps, parfois un peu plus, parfois un peu moins, à raconter toute leur vie à un travailleur social qu'ils ne connaissent pas, dans un bureau, en tête-à-tête, ce qui est très compliqué pour eux puisque on ne raconte pas aisément tout son parcours migratoire et les raisons pour lesquelles on a quitté son pays de façon aussi simple que ça, et ces évaluations aboutissent bien souvent à un refus du coup de minorité. Alors le département leur dit qu'il les croit pas et qu'il les considère majeurs. C'est à peu près 73% des jeunes en France qui après une évaluation sociale au département, dans les départements, se retrouvent comme ça laissés à l'écart de la protection de l'enfance. Pour ce qui est des tribunaux, qui sont la deuxième phase, si on peut dire, pour ces mineurs qui ont été refusés par le département, les décisions ont de plus en plus tendance à suivre l'évaluation sociale du département, qui se permet, le département, de faire des commentaires sur les documents d'état civil que peuvent produire les jeunes éventuellement, et les juges vont systématiquement dans le sens du département, ce que nous on ne peut que regretter quand on sait qu'il y a quelques années c'était pas du tout le cas, bien au contraire, les juges faisaient prévaloir en quelque sorte la présomption de minorité et plaçaient systématiquement dans l'attente d'enquête de vérification supplémentaire pour confirmer l'identité du jeune. Et puis Saint-Étienne est une juridiction qui fait systématiquement appel aux tests osseux que nous on estime ne pas être fiable, hein, sur la base de d'études médicales qui attestent que, bon voilà, quand on a des résultats de tests osseux qui disent que le jeune peut avoir entre 17 et 34 ans, il est quand même compliqué, même avec une marge d'erreur comprise dans la lecture des résultats, de faire confiance à ce type de test.
Alors, une fois que effectivement la minorité peut être reconnue, qu'est-ce qui se passe pour eux?
Alors déjà, il faut savoir que pour ceux qui sont reconnus mineurs par les départements, ils ont exactement les mêmes documents que ceux que le département ne prend pas. Et que le département conteste derrière devant les juridictions au tribunal en disant que les papiers sont faux. C'est-à-dire qu'il se réserve le droit vraiment de dire qui est mineur ou pas sur la base de leur propre travail et sans observer aucune contradiction. Ça, c'est une des premières choses qui nous paraît un petit peu aberrante. Voilà. Pour la suite... En général, une fois que l'évaluation est passée et qu'ils ont été pris en charge, on va pas dire que c'est un long fleuve tranquille, parce que c'est pas le cas, hein. C'est de l'hébergement, souvent dans des foyers, parfois en diffus dans des appartements en colocation, avec un travailleur social qui passe les voir une à deux fois par semaine, et surtout beaucoup de débrouilles. Donc ils sont quand même scolarisés, ils sont systématiquement envoyés dans des branches de formation qui relèvent des métiers en tension, ce qui leur laisse quand même peu de choix par rapport à leur orientation, et ce que nous on trouve pas normal, puisque ceux qui arrivent et qui voudraient faire médecin, juriste ou ingénieur se retrouvent maçon, plombier ou boucher.
Alors, dans le cas contraire, ceux qui ne sont pas reconnus comme mineurs, que deviennent-ils? Et c'est la problématique qu'on présente depuis un certain nombre de mois ici, c'est que finalement, ils disparaissent des radars du département, mais surtout de votre protection et du réseau que vous avez autour de vous.
Alors c'est effectivement 50% d'entre eux, en tout cas de ceux qu'on identifie, et on les identifie pas tous quand ils sortent du département avec un refus de prise en charge, qui disparaissent dans la nature. Alors on en a parfois des nouvelles, par eux-mêmes, par les services de police qui les arrêtent partout en France, ou par d'autres services sociaux qui les récupèrent et qui nous disent, voilà, il est dans telle situation, il y a un problème, comment on fait, est-ce que vous le récupérez, qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Étienne. Donc c'est quand même une errance qui est assez importante pour ces jeunes et qui est dommage quand on connaît leur âge, 14 à 17 ans. Ils sont particulièrement vulnérables.
Alors l'idée de ce rassemblement, de faire prendre conscience les pouvoirs publics, la population, d'alerter, c'est une continuité de toutes les actions que vous réalisez depuis un certain temps. Quels sont les différents recours et leviers que vous pouvez actionner?
Eh bien, si on constate un petit peu la documentation que tu as pu lire, à Lyon, à Paris, il y a des dispositifs qui ont ouvert, qui sont pilotés soit par la métropole de Lyon, soit par la ville de Paris, en lien avec les préfectures, et qui hébergent des mineurs en recours jusqu'à épuisement des voies de recours. C'est ce qu'on demande, en fait, hein, via notamment la tribune qu'on a fait passer aux députés et aux candidats à la députation en juin, qui est d'ailleurs maintenant signée par plus de 20 députés élus. C'est l'inscription de la présomption de minorité dans la loi française pour que, jusqu'à épuisement des voies de recours, jusqu'à ce qu'ils aient vu un juge des enfants, puis ensuite, éventuellement, la cour d'appel, ils soient pris en charge par les services sociaux, avec un cadre, des éducateurs, une scolarité, un accès aux soins, qui soit, bon, sensiblement la même chose que ce qu'on leur apporte ici, mais par des institutionnels et non pas par des bénévoles.
Écoutons maintenant Lamine, qui nous parle de sa situation.
J'ai préparé un petit texte concernant au département de Saint-Étienne. Je voulais m'adresser au monsieur le président. Bonjour Monsieur le Président, nous ne sommes pas contents du département de Saint-Étienne. Le département de Saint-Étienne refuse de nous prendre en charge. Et quand on fait les évaluations, ils nous posent des questions, même si on ne connaît pas, ils nous forcent à parler. On peut faire à peu près 3 heures, 4 heures, ils nous posent des questions, on ne peut pas retenir tout ça. Nous sommes des mineurs. Nous voulons des soutiens concernant M. le juge ou Madame pour nous aider. Nous voulons leur soutien.
Qu'est-ce que tu fais tous les jours ici à Saint-Étienne?
Actuellement, tous les jours, actuellement, je suis dans une association Maison Solidaire, c'est qui nous parle en charge. Le matin, ils nous donnent à manger. Le matin, on vient ici à la cuisine, on prend un peu de cours.
Alors, comment ça se passe au quotidien ici et puis avec l'association au-delà de la prise en charge? Est-ce que voilà, vous êtes accompagné pour des démarches, pour faire des papiers, etc.?
Oui, oui, ils nous aident bien ici, ils nous traitent bien. On est très content d'être avec eux ici.
Est-ce que tu es arrivé directement à Saint-Étienne, sans parler de ton parcours, mais ou est-ce que tu as fait d'autres villes avant?
Non, je passais Italie avant de venir ici d'abord. J'ai passé en Italie, après Italie. Je suis venu à Nice, après Nice, Lyon, ici.
D'accord. Aujourd'hui, tu témoignes du fait qu'on te pose des questions pendant 3 heures, c'est ce que tu dis, sans connaître les personnes, parler de ton parcours, parler de toi. Est-ce que ça, c'est quand tu parles avec tes camarades ici à la Maison Solidaire, est-ce que tout le monde se retrouve face à la même situation?
Bien sûr, c'est pareil pour tout le monde. Pour le monde, c'est pareil.
Toi, quand tu es venu ici, quand tu arrives à Saint-Étienne, qu'est-ce que tu espérais au début?
Quand je suis venu à Saint-Étienne, on dit, j'espère qu'ils vont me prendre en charge.
D'accord.
Mais quand je suis venu, ce n'était pas le cas.
Est-ce que tu imagines, si tu te retrouves face à une réponse négative sur une prise en charge, qu'est-ce que tu imagines faire?
Je continue de rester ici avec la Maison Solidaire jusqu'à ce que les situations auraient réglées.